L'envers de la carte postale thaylandaise, c'est ça.
Pattaya.
Une industrie du sexe qui fonctionne à plein régime. Les premiers touristes sexuels étaient donc des vétérans de la guerre du Vietnam de retour en Asie. Ensuite, l'idée a fait son chemin, l'amour facile, pas cher, le paradis.
Et tout sera dit ou presque ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de Pattaya, de Saint-Simon, de prostitution, de Francis Ponge, de Ladyboy et même du Sex and the City. Avec Jean-Noël Oringo qui signe La fleur du capital, roman énorme pour une tentative d'épuisement d'un lieu, Pattaya, ville bordel de la Thaïlande, où les hommes se perdent et où une femme s'en sort, Lucille Comeau.
Au cœur des ténèbres, Pattaya, un objet fondamentalement littéraire et en même temps impossible à mettre en forme, ou comment jouir d'une ville dans l'écriture.
19h30, place nette pour Xavier Delaporte et sa chronique Place de la Toile. Ce soir, Xavier ?
Je vais parler d'inconscient et de surmoi.
Ah, j'adore ça.
Je sais, c'est pour ça que je fais mes chroniques en fonction de vous, vous savez.
Très bien, ça sera mode la semaine prochaine. 19h35, plateau Théorie littéraire avec Christian Prigent qui publie La langue et ses monstres, un recueil de 19 articles entre exercice d'admiration, posture politique et défense formaliste. Manu Farine.
Portrait d'un poète qui commençait par être un post-surréaliste, idéaliste et torrentiel, remusclé quand même par la fréquentation des poètes beatniks, et c'est Christian Prigent qui le dit.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le supplément week-end de Benoît Lagan, que l'on ouvre d'abord avec le son du jour de Zoé Sfez.
Est-ce que l'émotion est la même au Niger après la mort de journalistes qui ont publié des caricatures du prophète ?
L'émotion est la même au Niger. Je pense que l'émotion est la même partout dans le monde. Parce que les Nigériens se disent non, leur religion n'autorise pas ce qui a été fait. Leur religion, ce n'est pas cela, c'est son image. Pour les musulmans nigériens, l'islam, c'est d'abord la paix. On ne peut pas savoir combien de fois les musulmans parlent de paix par jour. Puisque même dans les salutations, c'est que la paix de Dieu soit avec vous.
Bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour et il date de dimanche dernier.
Oui, et l'on entendait le président du Niger, Mahamadou Issoufou, interviewé par Christophe Boisbouvier pour RFI. Il était venu à Paris pour défiler aux côtés de François Hollande et dire que lui aussi était Charlie. Il l'a dit un peu plus tôt dans cette interview. Mais voilà, quelques jours plus tard, mercredi, quand Charlie est paru avec à sa une un nouveau dessin de Mahomet, il a décidé d'interdire la parution du journal au Niger, où coexistent chrétiens et musulmans, pour empêcher les débordements, ce qui n'a pas empêché plusieurs centaines de Nigériens de manifester ce vendredi après la prière contre Scène 1 et contre Charlie Hebdo. Et l'une des manifestations a dégénéré à Zinder, la deuxième ville du pays, et le centre culturel français Jean Rouch a été attaqué puis incendié. Pourtant, il y a eu des tirs de sommation et deux policiers étaient présents pour protéger le complexe. Le CCF Jean Rouch, qui est basé à la fois à Niamey, la capitale, et à Zinder, est rattaché au ministère français des Affaires étrangères et au ministère nigérien de la Culture, et il contient les deux plus importantes médiathèques publiques du Niger. Il propose aussi de nombreux cours de langue française et d'informatique et soutient la création culturelle nigérienne.
Merci Zoé, on se retrouve lundi pour la suite du Journal de la Culture. Bon week-end à vous. Et vendredi, eh bien, le Journal de la Culture, c'est aussi le supplément week-end. Bonsoir Benoît Lagan.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
Et pour commencer votre séquence du téléspectateur hebdomadaire.
Et l'actualité des séries télé cette semaine, c'était mercredi sur France 2 et c'était Accusé, nouvelle série judiciaire. Alors l'originalité de cette série, hein, comme au bon vieux temps des anthologies, Alfred Hitchcock présente, La quatrième dimension, ça remonte loin. Pas de héros récurrents dans cette série, chaque épisode relate une histoire et se présente donc sous la forme de 6 moyens métrages de 52 minutes chacun. Alors c'est l'adaptation d'un concept britannique. Chaque épisode de cette nouvelle série s'ouvre sur l'arrivée au tribunal d'un accusé qui, le jour de son procès, attend son jugement.
Et pour nous en parler, qui avez-vous donc contacté ?
Eh bien, j'ai téléphoné à Barbara Villet, qui est enseignante franco-américaine à Paris 8. Elle est juriste, spécialiste des séries télévisées judiciaires, auteure de nombreux livres sur le sujet. Et je lui ai demandé de regarder mercredi soir les deux premiers épisodes d'Accusé. Et Barbara est partagée.
En tant que téléspectatrice très fidèle à la télévision, j'ai trouvé que ça se regardait facilement. Le jeu d'acteur est très bien, il y avait beaucoup de suspense. J'ai vu quelques influences de la télévision britannique, c'était intéressant de voir comment les Français le géraient, comment ils mettaient en place ce qu'ils choisissaient. En tant que chercheuse sur les séries judiciaires, je ne peux pas appeler ça une série judiciaire.
Pour quelle raison ?
Parce que la justice n'est pas mise en question. Que les gens se retrouvent dans un engrenage à cause d'une situation dans laquelle ils se sont mis volontairement ou pas. D'accord, ils sont dans un engrenage, ils sont face à la justice, mais ce n'est pas le côté de la justice, de leur histoire, qui importe dans les récits. Mais à part quelques phrases rituelles de la part des deux présidents, enfin, le président de tribunal et le président de cour d'assises dans le deuxième épisode, il n'y a pas grand-chose sur la justice. La justice n'est pas en question, c'est le comportement des gens qui est en question. Et ça, c'est un bon thriller.
Alors j'ai demandé à Barbara Villet comment elle expliquait que les Français aient tant de mal à mettre en scène la justice dans leur fiction. Eh bien cela tiendrait pour elle autant du système judiciaire français que du paysage audiovisuel. Explication.
Il y a une attitude ici que la justice française était très écrite et très lente et que rien ne se passait et on ne pouvait pas le dramatiser. J'ai assisté maintenant à un nombre de procès en assises comme au correctionnel et je ne trouve plus ça très vrai. Mais c'est un petit peu la tradition. Il y a aussi quelque chose que je découvre depuis peu d'années, c'est la théorie de l'antijuridisme. Alors l'antijuridisme, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la justice. Ça veut dire qu'en France, l'autorité est politique. Et la justice est une institution qui fait partie de l'État. Mais ce n'est pas une branche du gouvernement séparée et autonome. Quelque part enfouie dans la culture française, la justice n'intéresse pas autant que la justice intéresse les anglo-saxons, parce que la justice gère les rapports entre les anglo-saxons et l'État gère les rapports entre les Français. C'est une autre organisation de société.
Alors pour juger, vous faire une idée, la série télé Accusée, c'est tous les mercredis soirs sur France 2.
Et on prolonge ce supplément week-end avec votre revue de presse, l'actualité culture média de la semaine écoulée. Lundi ?
Eh bien lundi, c'était encore série. On apprenait via de nombreux médias britanniques la mort, samedi, de Brian Clemens, scénariste de la célèbre série télé Chapeau melon et bottes de cuir. Il avait 83 ans. Et Brian Clemens, qui a écrit le premier épisode, n'était pas le créateur. Il a pour autant participé à l'évolution de la série. Benjamin Faux de L'Express a écrit mardi que Brian Clemens et ses scénaristes ont dépensé, je cite...
Qu'est-ce qui se passe ?
Je suis ému, la mort de Brian Clemens. Des montagnes d'inventivité pour créer la plus folle, la plus originale, la plus drôle, la plus féministe, la plus angoissante, parfois la plus surréaliste, souvent la plus anglaise des séries télé.
Et mercredi, ce n'était pas que dans Charlie.
Oui, avec la parution en kiosque du nouveau numéro de Charlie Hebdo, après attentat, plusieurs hebdos ont publié des dessins plus que de coutume. Et parmi les hebdomadaires qui ont fait ce choix, on note que les Inrecuptibles ont demandé par exemple à des dessinateurs et plasticiens tels que Stéphane Calais, Joe Sacco, Frédéric Peters d'illustrer les propos d'écrivains, philosophes et journalistes avec deux couvertures exceptionnellement signées l'une par Charles Berberian et l'autre par Marjane Satrapi.
Mais outre les Inrocs, elle aussi était Charlie.
En effet, l'hebdomadaire Elle, qui a sorti exceptionnellement son numéro deux jours plus tôt, avec en une illustration de Soledad, a demandé elle aussi à des dessinateurs d'illustrer sa rubrique info. Artus, Christophe Blain, Louison, Stéphanie Blake ou encore Zep m'ont répondu présent. Et le dessin de Zep est particulièrement touchant. On y voit Volinsky assis sur un nuage et avec la fumée de son cigare, il dessine un nuage en forme de femme nue. Un peu plus bas, une petite fille étonnée demande à son père « Papa, c'est quoi comme nuage? Un cumulus ?» Et le père de répondre « Un Volinscus. »
Et aujourd'hui ?
Eh bien, c'est M, le magazine du Monde, daté de demain, qui a lui aussi fait le choix de construire, après leur couverture muette du 9 janvier, un numéro très illustré. Marie-Pierre Lannelong l'explique ainsi dans son éditorial, je la cite. « C'est quelque chose que nous rêvions de faire. Nous pensions depuis longtemps à un numéro réellement illustré où nous donnerions la première place à des dessinateurs, caricaturistes, illustrateurs, autant de métiers que la presse écrite a tendance à négliger au profit de la photo. » Et puis la semaine dernière, ajoute-t-elle, il nous est apparu que c'est d'images que les terroristes avaient voulu nous priver, que c'est d'images dont nous avions besoin.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre ou d'autres informations à donner de la part de nos deux invités, Christian Prigent ?
Non, rien de spécial.
Jean-Noël Rango ?
Non.
Alors on commence tout de suite.
19h20, rendez-vous. Le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Pattaya avec vous, Jean-Noël Rango. Vous publiez en cette rentrée littéraire votre premier roman, La fleur du capital chez Grasset, une somme, près de 800 pages, qui prend son origine dans une ville thaïlandaise, Pattaya, une ville bordel, ville de la rédemption et de la déchéance, dans laquelle évoluent cinq personnages identifiés à leur pseudonyme. Il y a Marley, l'exilé, qui tombe amoureux de Porn, une transsexuelle sublime qui est l'âme de Pattaya. Il y a Kurtz, le sadique, fou de la passe, et je ne parle pas de psychanalyse lacanienne. Haroun, qui est l'architecte idéologue qui voit dans la ville le lieu de la possible débauche artistique. politique, et puis le scribe, qui serait le double de l'écrivain, éternel fasciné. Ces cinq personnages sont distribués en cinq actes, avec chaque fois deux formes de récits. Ceux à la première personne qui correspondent à la vie à Pattaya, le sexe, l'amour fou, les rues, la plage moite, les bars, et puis des récits à la troisième personne qui reviennent sur leur vie en France, triste, décevante, tendue vers le départ. Lucille ?
Avant d'entrer dans le roman, qui est vraiment une tentative d'épuisement par la description de cette ville de Thaïlande, quand est-ce que vous, vous y avez mis les pieds pour la première fois et qu'est-ce que vous alliez y faire ?
En fait, j'ai découvert Pattaya il y a à peu près 8 ans maintenant et j'avais été vraiment fasciné par certains comptes rendus qui étaient donnés sur le net, en fait. Hein. C'est pas les romans qui avaient été écrits là-dessus, mais véritablement des comptes rendus et ça m'avait vraiment intéressé. Je suis allé en Thaïlande, je suis allé immédiatement à Pattaya et effectivement, ça a été un choc. Alors, pour plein de raisons, je pense que tout de suite, j'y ai vu une sorte de rapport à la littérature qui était très fort, alors même que c'est une ville analphabète de ce genre de choses. Notamment.
Alors quel rapport avec la littérature ? Vous parlez dans un entretien, c'est assez intéressant d'ailleurs, du programme de la poésie moderne de la fin du 19e siècle.
Oui, alors ça c'est sûr.
Jusqu'au situationniste.
C'est-à-dire qu'il y a un folklore de cette poésie moderne, de Nerval au situationniste à travers des mots d'ordre, etc., qui sont très beaux, mais qui dans le vécu qui était d'ailleurs revendiqué par cette poésie-là, n'avait pas forcément de point d'ancrage dans la réalité parisienne, dans la réalité française. Et il se trouve qu'effectivement, quand on a eu ces lectures-là et qu'on arrive à Pattaya, on retrouve, ça folklorise, mais en même temps, ça l'incarne réellement. Ces figures de la nuit, ces figures des Lady Bar, c'est la beauté assise sur mes genoux et que j'ai injurié de Rimbaud, par exemple. Voilà, il y a cette morsure esthétique et que ressentent d'ailleurs toutes celles et tous ceux qui vont là-bas. Et qui par ailleurs peuvent se vraiment n'avoir rien à faire de ce dont on vient de parler, de toute cette littérature, mais qui ressentent ça. Oui.
Je cite le roman « Chaque étranger au Siam retrouve un reflet de ce qu'il est vraiment ». Comme écrivain, qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas qui vous fasse entrer en littérature pour ce premier roman ?
Ben justement, j'avais le plus grand mal, j'avais une volonté d'écrire et sans y arriver, j'avais du mal à trouver sur quelle branche me placer parce que voilà, il y avait toutes sortes de lectures contradictoires, c'était très difficile à articuler. Et Pattaya était une sorte de miroir pour trouver une forme hybride qui permettait de faire dialoguer tout ça.
Lucille.
Alors, le récit prend vraiment deux formes principales. À la première personne, quand on est en Thaïlande. À la troisième, quand ils sont en France. Il y a aussi deux polices qui distinguent bien les deux dispositifs. Qu'est-ce que cette distribution des personnes dit de votre rapport peut-être au lieu ?
Bah, si vous voulez, moi j'étais un grand lecteur de gens comme Claude Ollier, d'auteurs comme Claude Ollier, comme Claude Simon. Et ce que je voulais faire, c'était une sorte de forme transitionnelle en fait, où on pouvait passer du jeu au il et où il y avait un rapport de critique entre les deux.
Ce qui se passe beaucoup chez Claude Simon.
Voilà, il y a une sorte de reprise permanente et qui permet de. Il y a un registre critique, métacritique, il y a une adresse au lecteur aussi à un moment donné. Voilà.
Au cœur du roman, il y a un tableau qui est le tableau périodique des genres joyeux qui expose toutes les combinaisons possibles du plaisir sexuel en fonction de son sexe, de sa sexualité, de sa tendance. Toute la sexualité en général telle que vous l'évoquez est donc très codée. Est-ce que ce tableau qui apparaît un peu comme un symptôme de votre écriture, à savoir qu'il faut tout consigner, tout envisager. C'est comme ça qu'on peut aussi le regarder.
Oui, parce que Pattaya donne une vision un peu encyclopédique du monde d'aujourd'hui. C'est sans doute ce qu'il y a peut-être de plus original par rapport dans notre temps. En tout cas, ça n'existait manifestement pas avant. On ne sait évidemment pas si ça existera après. Et puis aussi, c'est aussi un rappel de toutes ces idéologies en cours, cette crispation sur la notion de genre. Et c'est pour ça que ça s'appelle le tableau périodique des genres joyeux.
Combien de temps êtes-vous resté à Pattaya pour pouvoir écrire ce roman énorme ?
En fait, j'ai fait des séjours depuis 8 ans, tous les, j'ai envie de dire, 3-4 fois par an. Voilà, j'y ai aussi vécu un peu. Je ne suis pas forcément tout le temps resté à Pattaya, parce que Pattaya, c'est le haut de l'iceberg. Et en fait, les racines plongent dans toute l'Asie du Sud-Est, jusqu'en Inde, jusqu'en Indonésie. Jusque dans des terres comme ça, musulmanes de Malaisie aussi. Mais bon, ça m'a pris 8 ans.
Jusqu'où avez-vous poussé la documentation ? pour ce texte?
Alors là, j'ai une réponse très simple, c'est le regard froid. Voilà, le regard froid de Warhol. J'ai vécu des choses, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup écouté. C'est un travail très long parce que il faut qu'on, toutes ces lady bars, tous ces clients, tous ces punters, voilà, il faut arriver à ce qu'ils vous parlent et à ce qu'ils vous disent des choses. Au-delà de l'étiquette de cette cour particulière, de ce Versailles de sexe qui est le monde de la prostitution thaïlandaise. Donc il faut développer des amitiés et il faut voilà, pour que la parole se libère et qu'on essaie de découvrir les coulisses.
Lucille ?
Je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'observation des idéologies du monde qui seraient concentrées dans Pattaya, parce que le titre est emblématique de ce point de vue-là, la fleur du capital, capital avec un grand C, je précise. Est-ce que la prostitution et le tourisme sexuel en particulier seraient le poste d'observation privilégié, justement, du grand capital aujourd'hui ?
Ah, c'est certain, mais ça, je veux dire, c'est depuis très très longtemps. Non, simplement ce titre, bon, ça renvoie évidemment au 19e, aux fleurs du mal et au capital, et c'est véritablement à la fois la rencontre de deux choses pour moi. C'était la rencontre de la littérature, la fleur, symbole du lyrisme et qu'on peut moquer, et de l'autre côté l'argent, et tout ça se goupille à Pattaya.
Alors, comme tous les jours, on demande à nos invités un son qu'ils voudraient entendre et qui les a marqués, et vous avez choisi cela.
Hello. Bon. Bon. Marcello, where are you? Where did it go for that milk? My goodness.
Identification de ce son, sans doute un peu, et la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Jean-Yves Lorango.
C'est un hommage, elle est morte dimanche dernier.
Elle était avec Berg.
Et puis j'adore cette voix, c'est une voix gutturale, et elle me rappelle la voix de certaines Lady Bar, notamment quand elle dit Marcello, come here, etc. Et il se passe plein de choses dans cette voix, c'est une voix très humide, plein de... Et voilà, c'est...
Une voix qui vous dit aussi quelque chose, Christian Prigent, qui rentrait d'Italie.
Oui, dans la presse italienne de ces jours derniers, il y avait des pages entières sur le décès d'Anita Ekberg. Et évidemment, cette scène est à la fois présente dans la mémoire quand on s'intéresse au cinéma, et en particulier à ce cinéma-là. Mais elle est présente aussi dans l'actualité du fait de ce décès récent et de ce à quoi il a donné lieu dans cette presse que j'ai fréquentée quotidiennement ces jours derniers. Oui.
Alors, il y a un personnage dans La Fleur du Capital, un personnage d'écrivain, c'est le scribe qui a cinq grandes références, Saint-Simon, Sade, Proust, Céline et Roussel. Ce sont des écrivains que vous-même vous citez. Quel serait le lien que vous feriez entre eux ?
Ah bah, c'est un lien purement arbitraire qui est tout simplement le personnage lui-même, en fait. C'est très difficile, je pense, à articuler des lectures qui peuvent paraître contradictoires. Il y a des amours contraires, là, pour le coup, et presque contre nature en littérature, surtout quand on vient du XXe siècle où il y a eu des crispations idéologiques très fortes et où on pouvait lire certaines choses et pas lire d'autres.
Et vous êtes en train de regarder Christian Prigent à ce moment-là.
Non, mais bon, voilà.
Non, mais il va s'expliquer.
Mais donc, ce sont les références de Scribe. Après, les exergues de chaque scène sont très importants parce que évidemment, il y a toutes sortes de gens qui, je pense, on aurait aimé peut-être les dissocier, alors que là, le but c'est de les réunir. Il y a Francis Ponge notamment.
Exactement. Peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit sur...
J'ai noté le coup d'œil
qui vous était adressé.
Qui m'était adressé de la part.
Comment vous l'avez compris, ce coup d'œil, alors?
Je ne sais pas, comme une invite à m'expliquer peut-être sur cette question, mais surtout, je ne voudrais pas être le représentant, en général d'une part, et puis sur cette table.
Certainement.
En particulier de ce moment de l'aventure littéraire au XXe siècle qui a fonctionné à base de sélections sévères et d'oukases tout aussi sévères. Je crois Effectivement, il y a eu un moment avant-gardiste comme cela dans les années 60-70 où l'interdiction de lire ou le Lucas porté sur un certain type de posture littéraire était violente et vive. Bon, je crois qu'on est un peu sorti de cette période que je ne regrette absolument pas d'ailleurs, hein, parce que c'était aussi une exigence de qualité littéraire qui portait cette volonté d'établir des hiérarchies sévères. Mais bon, entre Francis Ponge, puisque vous avez cité ce nom, d'autres noms qui sont passés à l'instant dans la conversation, comme Roussel ou le Marquis de Sade, les différences sont au moins aussi énormes que les proximités, et ce n'est pas à partir des proximités que les hiérarchies en question peuvent se constituer.
Ouais. Plutôt par les différences amicales, hein, et presque...
Tout à fait.
Je l'ai pris comme
ça.
Voilà, absolument, tout à fait.
Saint-Simon, qu'est-ce qu'il vous permet ?
Écoutez, Saint-Simon, c'est la peinture d'une cour. Et en fait, quand on arrive à Pattaya, c'est une cour. C'est une aristocratie de rue. Les filles se considèrent comme des pirates parce qu'elles sont tatouées, comme des baronnes parce qu'elles ont beaucoup d'argent, comme avec le sponsoring des clients. Et elles se comportent véritablement comme des aristocrates. Elles choisissent leurs clients comme on pouvait choisir ses courtisans. Et Saint-Simon, voilà. Et puis surtout, Saint-Simon, c'est au moment où la langue française se ferme, voilà. Il, lui, au contraire, maintient ce qui était la souplesse du français du XVIe siècle et avant.
Lucille ?
Comme le personnage d'écrivain dans le texte, vous dites que vous-même, vous avez été victime de la littérature. Qu'est-ce que ça a pu empêcher ou frustrer chez vous ?
Ah bah, ça a été longtemps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des lectures contradictoires. Encore une fois, cette partie du scribe s'appelle fabriquer au XXe siècle. Ouais. Hein, et véritablement, j'étais un peu j'ai fréquenté des queues de comète de ce qu'avait été le XXe siècle. Et j'ai rencontré aussi de grands poètes, notamment Jean-François Bory, par exemple, qui m'a mis le pied à l'étrier à un moment donné. Et de l'autre côté, je fréquentais donc des queues de comète du nouveau roman, etc. Et tout ça était très contradictoire pour moi. Et ça a mis beaucoup de temps à pouvoir faire quelque chose.
Lucille ?
Le roman est très long, il est aussi très structuré. Il est structuré en actes qui eux-mêmes sont divisés en scènes. En fait, toute la structure du roman appartient au théâtre. Il y a des entr'actes, des coulisses, il y a même des souffleurs et puis des interludes. En quoi est-ce que la forme théâtrale était la plus à même justement à structurer cette énorme masse ?
Ah bah, par rapport au chaos de la ville, si vous voulez.
Il fallait en passer par le théâtre et non pas par une architecture purement romanesque.
Eh ben, alors moi, ça m'intéressait justement d'explorer ce vocabulaire théâtral et d'en faire des têtes de chapitre en fait. Bon, déjà la transition entre les scènes et les intermèdes et le passage du jeu au île, ça c'était une première chose. Mais les coulisses comme l'inconscient comme étant voilà une manifestation de l'inconscient du personnage, les souffleurs parce que ça me permettait de l'intertextualité, la répétition parce que le personnage est vide et finalement il se remplit de toutes les références, etc., etc.
Lucille ?
Il y a un autre écrivain qui a évoqué le tourisme sexuel en Asie du Sud-Est, c'est Michel Houellebecq, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, c'était dans Plateforme en 2001. Et on y pense d'autant plus qu'il y a des personnages qui surgissent dans la seconde partie, celle de Kurtz, qui s'appelle Nicole et Michel, et que Kurtz lui-même qualifie de Houellebecquien. C'est quoi pour vous un personnage Houellebecquien par rapport justement à la manière dont vous construisez vos personnages ?
Alors, en fait, vous êtes la première à le signaler, et même un personnage s'appelle Michel à la
Michel,
fin, et d'ailleurs, ça se termine mal pour lui. Je pense que pendant que j'écrivais ce livre, j'en parlais, et on m'a dit c'est impossible de ne pas, à un moment donné, évoquer Michel Houellebecq. Je pense que les projets sont radicalement différents, évidemment. Moi, je refuse ce terme de tourisme sexuel. Je suis pas non plus. Je ne me considère pas comme un romancier à thèse ou explicatif. Je suis un romancier descriptif. J'essaie de décrire et d'accueillir ce réel sans en faire une interprétation réaliste, si vous voulez. Voilà, plutôt matériel. Enfin, voilà, ce sont des matériaux, des matières, et j'essaie de rassembler.
Tout à l'heure, on parlait des personnages qui tous. On parle à la première personne ou ont des parties à la troisième personne, sauf un. Le seul personnage qui n'en est pas un, vous le dites dans un avertissement avant que son acte ne commence, c'est Porn, donc la transsexuelle, enfin disons une femme sublime née dans un corps de garçon, parce que Porn existe réellement. Qu'est-ce que ça a changé dans votre écriture ?
Porn, c'est la sidération du réel. Il y a une sorte d'humilité face au personnage de Porn. Donc c'est une transsexuelle, une femme née dans un corps d'homme, mais avec, il y a une perfection dans sa féminité. modernité, pas simplement parce qu'elle se maquille ou que ce soit, ça n'a rien à voir, mais dans sa façon de bouger, dans ses gestes, dans son corps, qu'elle s'est construit en partie. C'est un peu ce que disait Sade de la nature, toujours majestueuse, digne de nos pinceaux. Et Porn, il était impossible d'en faire un personnage. Les autres, bon, ce sont des mixtes entre différentes personnes que j'ai pu rencontrer, il y a un peu de moi. Mais Porn, je voulais juste la montrer. Et en plus, elle est d'autant plus particulière qu'elle est musulmane et qu'elle est parcourue par tout ce qui touche le monde musulman aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois une grande spiritualité et puis le salafisme qui a gangréné là aussi l'islam d'Asie du Sud-Est, qui est un islam animiste, marqué par le bouddhisme. Elle-même croit à la réincarnation, par exemple. Mais en même temps, il y a aussi ce rigorisme par exemple, lorsqu'elle parle d'Al-Qaïda, elle dit des choses qu'on ne pourrait difficilement entendre ici. Alors qu'elle est transsexuelle et qu'elle serait condamnée si elle allait en Terre Sainte à la Mecque.
Quelle écriture fallait-il inventer pour ce personnage qui n'en est pas un?
Alors justement, pas une écriture documentaire. Ça a été très complexe cette partie parce que je voulais que ce soit une écriture proche du chant et rythmique pour faire ce portrait.
Lucille?
Alors le texte s'achève sur un alexandrin, des îles et puis la mer et des tankers dessus, alors que le livre s'enfonce tous les personnages les uns après les autres dans la perdition. L'alexandrin, pour vous, c'est la fin de la langue française?
Non, mais c'était important de terminer sur cette figure particulière de la poésie française qui est l'alexandrin. Bon, en général, l'alexandrin ne marche pas seul, parce que sinon c'est pas vraiment un. Pour qu'il y ait vert, il faut qu'il y en ait au moins deux. Mais c'était, et puis surtout c'est l'émiettement du continent de l'Asie, c'est-à-dire on part de l'Inde et puis on aboutit à l'émiettement des îles.
Vous avez fondé un collectif d'artistes et d'auteurs des fictions. Quelle est la littérature que vous défendiez?
Alors justement,
on était
assez hétérogène. Hein. Ah. Le but, c'était pas de se fermer. On considère que des fictions, c'est véritablement un lieu de rencontre entre des photographes, des auteurs, des critiques, mais qui toujours, quelle que soit leur lignée, partagent une véritable exigence, un engagement, une aventure du langage, une aventure du récit, pour reprendre des termes qui étaient connus dans les années 60-70. Et c'est pour ça qu'on a invité aussi bien Cécile Guilbert, qui a un engagement fort dans la critique, Jean-François Bory, c'est encore autre chose, Jean-Christophe Bourcard, Philippe Bordas dernièrement, voilà.
Le rendez-vous, la chronique.
Jean-Noël Ringot et Christian Prigent vous retrouvent dans quelques instants, mais tout de suite, c'est la chronique du vendredi, Place de la Toile avec Xavier Delaporte, en partenariat avec Rue 89, dont vous êtes le rédacteur en chef.
Oui.
Et ce soir, c'est à votre programme, si je peux me permettre.
Je vous en prie. Je vais vous dire, je vais vous expliquer.
D'accord.
Hier, le site d'information Slate.fr publiait un article intéressant sous forme de retour sur la semaine écoulée. Et cet article formulait une proposition, elle aussi, intéressante. Pendant ces jours de folie que nous avons vécu, il y aurait eu d'un côté les médias, télévision, radio, presse écrite et en ligne, et de l'autre, Internet. D'un côté, donc, dans les médias, on aurait vu une information qui tentait d'être recoupée, vérifiée, interprétée. Et de l'autre, on aurait vu, entendu et lu le tout venant, l'information telle qu'elle arrivait et de partout sans aucun filtre. D'où la conclusion de ce papier, les médias auraient joué le rôle de surmoi, de surmoi d'Internet, en filtrant la parole pour n'en garder que ce qui relève de l'information. De cette théorie, on pouvait tirer une autre conclusion implicite, celle-là. Internet serait comme un inconscient, vous avez compris.
Oui, Internet, ouais. Ce serait le ça.
Ouais, voilà, exactement. Je passe sur la justesse de l'analogie sur le plan strictement analytique. Vous pourriez éventuellement vous prononcer là-dessus, Laurent, mais pas moi. Et puis, ce n'est pas en 3 minutes que je vais réussir à donner une définition claire de ce que sont le ça et le surmoi et comment ils interagissent. Des gens y ont consacré leur vie. Prenons l'analogie comme une sorte de jolie métaphore. Donc, les médias comme surmoi, donc, et Internet comme ça. En un sens, ça n'est pas faux. Suivre les événements de la semaine sur les réseaux sociaux nous mettait sans doute face à quelque chose qui relevait d'une sorte de magma cauchemardesque et insensé. Tout se mêlait, la discussion, les théories les plus folles et surtout les images. Quand les télés se repentent vite d'avoir montré le policier se faire abattre par les tueurs, Internet garde ces images et les propage à merci. Même chose 2 jours plus tard, quand l'assaut
et filmer l'assaut de l'hypercachère de la porte de Vincennes. Les télés édulcorent vite les images, mais pas Internet, qui propage ce moment hallucinant où Amédi Coulibaly, sans doute déjà criblé de balles, se jette sur le mur de policiers qui lui tirent dessus. Et je ne parle pas de la vidéo posthume de ce même Amédi Coulibaly, mise en ligne le lendemain de sa mort, qui est restée dans les tréfonds du web sans être diffusée à la télévision. Oui, en ce sens, il y a bien une différence, un traitement du réel qui n'est pas le même. Mais pour autant, n'a-t-on pas assisté à une autre forme de folie? D'abord parce que les médias n'ont pas été exempts d'une forme de précipitation déraisonnable. On l'a noté, hein, mise en danger de la vie des otages, entrave au travail de la police, ressassement des mêmes images, diffusion d'informations démenties peu après, etc. Donc, surmoi peut-être, mais parfois défectueux. Et puis, il y a une folie structurelle des médias avec le temps réel. C'est pas nouveau, la télévision nous le fait vivre depuis longtemps. On se rappelle de la prise d'otage à Marseille, de l'avion, c'était en 1994, par le GIA. Il y avait quelques chaînes de télévision il y a 20 ans, mais les radios ne pouvaient rien montrer et les journaux devaient prendre le temps d'écrire et d'imprimer. Et il y a donc aujourd'hui, à la grande différence, une compétition dont les acteurs sont multiples, les lives sur les sites internet des journaux et des radios, où l'on peut aussi montrer des images de nombreuses chaînes de télévision et notamment les chaînes d'infos en continu, on sait tout ça très bien. Donc sur moi peut-être, mais sur moi qui fonctionnerait comme en accéléré et qui, même s'il filtre, même s'il donne une forme, le fait tellement vite que ça en devient presque incompréhensible. Et Internet dans tout ça, ça peut-être, avec ses vices et ses vertus, ses vices on les connaît, mais ses vertus c'est d'exprimer des états d'âme confus mais importants. Et passer des heures à le voir ressasser, à les voir ressasser et se mouvoir comme une sorte de blob un peu dégueulasse permet, comme un cauchemar un peu prémonitoire, de sentir ce qui va advenir, voir par exemple que l'unité n'en est pas une, que l'unanimité est faite de malentendus et peut-être aussi de pensées sombres.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre? Est-ce que ce vocabulaire psychanalytique vous a parlé?
Oui, enfin, reste la place du moi. Quoi, dans
exactement. C'est le grand absent, manifestement.
Sauf à considérer que le chroniqueur occupe la place du moi. Quoi.
Ça, c'est abyssal, ce que vous voulez dire.
Non, je pense que c'est la véritable interprétation.
Pas mieux.
Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Plateau théorie littéraire avec vous, Christian Prigent, poète, écrivain, essayiste. Poète et écrivain, c'est exactement la même chose. Poète, essayiste. Vous publiez La langue et ses monstres chez POL. 19 articles parus dans différentes revues entre 1975 et 2014. 19 textes consacrés à des figures littéraires, des modernes comme Gertrude Stein jusqu'à Christophe Tarkos, en passant par Emma Yakovsky, William Burroughs, Francis Ponge ou Antonin Artaud. Quelle idée souterraine de la littérature et de la langue pourrait les rassembler? Parce que là, on n'est pas comme tout à l'heure dans l'éclectisme de Jean-Noël Oringoux.
Je crois effectivement qu'il y a entre les écrivains sur lesquels je réfléchis un certain nombre de fils qui sont communs derrière les différences qui sont énormes, hein, entre Gertrude Stein d'un côté par exemple et je ne sais pas Mayakovsky. Ce qui éclate surtout, ce sont les écarts plutôt que les proximités. Mais je crois qu'il y a entre tous ces auteurs-là, de Stein à Tarkos, en passant par Ponge, au moins un point commun qui est que au centre de l'opération littéraire, la question de la langue, de ce que la langue posait face à la difficulté de symboliser le réel, soulève comme question, avec comme conséquence de cette posture, l'idée qu'il n'y a pas de littérature qui ne soit réinvention de langue, qui ne soit réinvention de langue. Dans la mesure où l'expérience de vie, l'expérience du monde, face à laquelle la position littéraire se tient, est l'expérience de quelque chose qui, à la masse des langages codés dont nous disposons, échappe. Voilà. Dans un espace où les êtres humains que nous sommes, c'est-à-dire les êtres qui parlent, d'une part, ne peuvent pas échapper à la nécessité de parler. Il n'y a pas d'être humain qui se contente de vivre. Tous les êtres humains, en plus, doivent représenter leur vie, hein, même s'ils ne sont pas écrivains, même s'ils ne manient pas le langage d'une manière sophistiquée. Donc, cela d'une part. Et d'autre part, entre cela et le constat que les moyens linguistiques qui nous sont fournis par les discours scientifiques, les discours religieux, les discours de la morale et bien d'autres discours simplement pragmatiques ne rendent pas compte d'une manière juste de l'expérience que chacun singulièrement nous faisons du réel de nos vies. Voilà. Donc c'est dans cet espace que ça se situe. Et un Mayakovsky, un Tarkos, un Jules Stéphane, un Francis Ponge sont selon moi placés dans l'espace de cette contradiction entre la nécessité de parler et l'incompétence des discours disponibles qui les force à inventer, à fabriquer des langues, à trouver des langues, comme disait Rimbaud, pour citer une phrase bien souvent citée.
Jeanne Loringo, ça fait écho, j'imagine, à la façon dont vous avez entrepris d'ailleurs ce premier énorme
roman.
Oui,
bien sûr.
Et il fallait inventer une langue.
Oui, inventer une langue, une aventure du langage certainement, mais bon, moi c'est la figure de Gertrude Stein surtout qui me passionne dans le livre que vous avez fait là.
C'est elle qui ouvre le texte.
Oui, c'est elle qui ouvre le texte, et d'autant plus qu'au fond elle est pas si bien connue en France parce qu'elle n'est pas autant traduite que ça. Son maître livre, c'est le Making of Americans, 1000 pages, il y a 230 pages traduites par Bernard Faïs et c'est tout. Alors pourtant c'est un massif aussi important que Ulysse de Joyce.
Je suis d'accord avec ça. Il faut pour nuancer ce que vous venez de dire, il faut mesurer peut-être l'influence que Stein a exercée, c'est-à-dire la masse des textes de Gertrude Stein qui ne sont toujours pas traduits ou qui ont été traduits approximativement ou qui n'ont pas été lus simplement, se compense, me semble-t-il, par le fait que toute une génération d'écrivains qui sont des écrivains plus jeunes que moi, la génération des Cadio, par exemple,
Olivier Cadio,
ou des Nathalie Quintane aujourd'hui, et celle de Christophe Tarkos en particulier,
bien sûr,
d'une manière assez évidente dans les solutions formelles qu'on voit à l'œuvre chez ces écrivains. Oui. Ce sont des auteurs qui ont été violemment marqués par l'expérience de Gertrude Stein et la manière dont chez Stein le langage tourne, on pourrait dire d'une certaine manière, à vide, mais propose une expérience de la matérialité de la lecture qui, me semble-t-il, avant l'apparition de ce texte, n'a pas eu lieu, en tout cas, sous cette forme.
Ah oui, c'est sûr.
Anne Farine.
Christian Prigent, La langue et ses monstres, c'est une première publication en 1989 de 11 articles de Gertrude Stein à Novarina. Et l'édition qui paraît aujourd'hui a donc été augmentée et en partie reprise, réécrite. Vous dites à ce sujet en avoir éliminé ce qu'il y avait de plus crispé, je cite, par les polémiques de l'époque. Alors peut-être qu'on rejoindra ce que disait Jean-Noël Loringo tout à l'heure. De quoi s'agissait-il exactement? Quelles sont les questions qui n'étaient plus valides aujourd'hui pour vous?
Je ne sais pas si c'était des questions et s'il s'agit vraiment de validité, mais il me semblait qu'il y avait une péremption, disons. Qu'il y avait une péremption dans la mesure où la première édition de ce livre, quand j'ai publié la première édition en 1989, c'était dans une période dont certains se souviennent, j'imagine, où après la phase avant-gardiste, un peu tonitruante, telle qu'Alien, etc., des années du début des années 70, la fin des années 60, quelque chose s'est passé, où pour des raisons largement politiques, idéologiques en tout cas, ce sur quoi les avant-gardes historiques se basaient, en particulier leur perspective révolutionnaire, leur perspective progressiste, a été battue en brèche et où on a assisté à une sorte de volonté de liquidation de ce que ces avant-gardes proposaient dans l'espace de la littérature. Bon, il me semblait, moi, à cette époque-là, à cette date-là, qu'il fallait résister à cela, non pas en se crispant sur des postures idéologiques ou politiques dont, évidemment, l'histoire avait déjà prononcé la caducité, mais qu'il fallait résister sur l'exigence d'invention dans la sphère précise du poétique, de l'invention littéraire. Voilà. Autrement dit, qu'il ne fallait pas jeter l'enfant de l'invention avec l'eau du bain idéologique. Voilà. Et donc, le livre tel qu'il est paru à ce moment-là, en 89, portait cette marque-là. C'est-à-dire qu'il était tout entier polémique. Il était tout entier polémique et dans un espace polémique qui s'entendait qui s'entendait dans le contexte que je viens de décrire. Voilà. Alors ça, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans, c'est très loin, c'est très loin. Il s'est passé énormément de choses depuis dans l'histoire de l'invention de la littérature en France, dans le domaine de la poésie, et pas seulement de ce qu'on appelle la poésie, même si on prend ce mot au sens très très large. Voilà. Donc bon, il me semblait que tout cela avait un côté obsolète et un peu ridicule aussi, parce qu'il y avait dans les polémiques de cette époque-là un côté tambour-trompette, affirmation, disons, et crispation, et rancœur aussi, sur lequel je ne voulais pas m'apesantir.
Alors je vais rebondir sur un mot que vous venez de replacer, c'est ce terme de crispé, qui est un mot qui revient à plusieurs reprises, que ce soit dans l'avertissement, dans les articles même, ou même dans une publication en 97 sous le titre « L'écriture, ça crispe le mou ». Que faut-il entendre dans l'usage récurrent de ce terme dans votre littérature, Christian Prigent ?
Je ne sais pas si c'est à moi de répondre vraiment à cette question-là, mais bon, je crois que dans la posture d'invention littéraire, dans la posture d'invention stylistique, il y a une nécessité violente et donc crispante de résistance à l'envahissement du lieu commun et à l'envahissement de la simple banalité académique des formes littéraires. Mmh. Voilà. Il me semble que dans ce qui paraît aujourd'hui massivement, on pourrait mettre des noms derrière ce... Je ne les mettrai pas, mais on pourrait mettre des noms. Voilà. Donc, cette posture-là est une posture quasi inaugurale. Bon, comme disait Francis Ponge, le premier geste est de parler contre les paroles. Quoi. C'est-à-dire, ce geste inaugural nécessite une tension, une espèce de refus violent de ce qu'on nous force à parler et à dire, en désignant l'idéologie, disons. Voilà. Et donc, il y a toujours, me semble-t-il, cette sorte de crispation, en particulier dans les phases inaugurales, de tout geste littéraire significatif, voire important. Voilà. Le geste inaugural de d'Artaud, le geste inaugural de Ponge, le geste inaugural de Burroughs, celui de Gertrude Stein, ont ce côté crispé qu'assez souvent, la durée, l'installation des œuvres dans leur propre présence, à savoir la conquête qu'elles opèrent, en tout cas qu'elles croient opérer, d'une langue qui sera leur langue propre, et la sorte de bien-être qu'il y a quand on invente une forme à s'installer dans la gestion heureuse de cette forme, ce mouvement-là décrispe les choses. Et très souvent, les œuvres dont je parle vont vers quelque chose de plus souple, de plus heureux, de plus sympathique aussi du point de vue du lecteur, disons. Voilà. C'est pas toujours le cas, mais c'est
quelque chose qui s'est passé dans votre propre parcours d'écrivain.
C'est ce qu'on me dit quelquefois. Moi, j'en suis moins sûr parce que...
Vous avez l'impression d'être toujours crispé ?
Ben oui, parce que, ce serait arrogant de penser le contraire. Je veux dire, le poids des représentations dominantes se réinvente constamment, vous envahit constamment, revient constamment, empêcher la singularité de votre voix propre de se donner dans un champ souple.
Jean-Noël Ringaud, une réaction ?
Oui, c'est certain. En même temps, ce qui est frappant aussi quand on relit par exemple les textes de Denis Roche qui ont été écrits quand même à une époque où il y avait, comme vous disiez, une forte crispation, ils ont totalement résisté à ça. C'est-à-dire que l'idéologie a cessé. Et quand on lit tous ces textes, il y a la force matérielle de la langue qui est là et qui dit tellement plus de choses que toutes ces écritures réalistes. Et ça reste. Et l'idéologie, les idéologies qui ont été, qui ont donné lieu à des partitions, des combats très forts d'un seul coup. Tout ça s'arrête.
Xavier Delaporte.
Il y a encore des combats. Parce que est-ce que l'abandon, la crispation et le fait que vous réécriviez ces papiers, enfin ces articles, est-ce que c'est pas le signe aussi qu'au fond il y a des combats auxquels vous avez renoncé ?
Christian Prigent.
Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a toujours. Moi, je suis d'abord un écrivain, c'est-à-dire je suis d'abord quelqu'un qui écrit des textes de fiction, qui écrit de la poésie, qui écrit des essais à caractère théorique, non pas par mortification ou par sacerdoce, mais aussi parce qu'il y a, quand on est un intellectuel, la pensée, c'est une forme de la jouissance. Donc, on écrit des essais théoriques par jouissance. Bon. Mais en même temps, pas seulement par jouissance. On écrit des essais à caractère théorique parce qu'on a la sensation, que l'effort pédagogique est à reprendre d'une manière perpétuelle, à refonder, à relancer constamment. Voilà. Bon, moi, il me semble que il faut sans cesse réaffirmer dans un contexte culturel donné, quel qu'il soit, qu'il y a cette sorte d'exception violente dans le traitement de la langue qu'on appelle la littérature. Et que cette exception-là, il ne suffit pas de lui donner le champ, c'est-à-dire de la publier, par exemple. Mais encore faut-il se donner les moyens d'établir entre ses excentricités et sa réception possible des relais à raisonner, rationaliser, qui sont ce qu'on appelle la théorie, qui sont ce qu'on appelle la critique et la théorie. Voilà, c'est pour ça que je fais ça.
Manu Farine.
Alors, on a évoqué Denis Roche, qui est présent, mais à qui vous ne consacrez pas un article. Hein. Vous lui avez consacré, évidemment, un essai, hein, votre premier essai, d'ailleurs, je crois, en 69. Donc, il est question de Denis Roche, mais il est aussi, on l'a compris, question de Francis Ponge, qui est une figure importante pour vous, qui est aussi une figure problématique. Vous dites d'ailleurs que chez lui, vous avez fait votre cure anti-lyrique, hein, pour commencer. Vous lui avez consacré votre thèse. Quels sont les problèmes d'écriture que vous pose Ponge, hein, notamment dans l'article, hein, que vous établissez sur lui?
Le texte, j'ai écrit beaucoup de choses sur Francis Ponge dans des ouvrages.
Mais là, dans Malaise, dans l'admiration, qui est donc le titre de l'article,
oui,
que vous lui consacrez,
voilà,
dans votre
le titre,
livre.
Sur les questions politiques.
Le titre dit ce qu'il en est de ce texte, à savoir admiration. Moi, je dois énormément de choses à Francis Ponge. Je ne vais pas y revenir en détail dans la minute. Mais malaise, parce que quelque chose dans l'œuvre de Ponge, dans le développement de l'œuvre de Ponge, dans le rapport de Ponge à la politique, dans la déclaration politique de Ponge et le mouvement de cette déclaration...
Il part du Parti communiste jusqu'au RPR.
Il part plutôt d'une espèce d'anarchisme comme cela, comme on était anarchiste dans les années 1920, quoi, voilà. C'est plutôt par là qu'il commence. Hein. Bon, puis ensuite, la résistance est... À la suite de la résistance, pas pendant la résistance, le Parti communiste. Et puis, peu à peu, par étapes successives, en tout cas dans la déclaration, moins successives dans l'œuvre elle-même, si je dis la dérive, ça va tout de suite être négatif, donc je ne vais pas dire ce mot, mais l'évolution vers des positions politiques de droite et... avec en plus, parmi ces positions, des composantes qui, de mon point de vue, sont assez peu sympathiques, puisqu'elles comportent des connotations volontiers antisémites et, en tout cas, régulièrement homophobes, etc. Voilà.
Et avec un impact sur son écriture, c'est bien ce qui vous intéresse.
Alors voilà, le texte sur Ponge qui figure dans ce livre, au départ c'est une conférence. Hein, c'est une conférence dans un colloque à l'ENS de Lyon il y a quelque temps, peu importe, dont le thème du colloque était le rapport de Ponge à la politique. Voilà. J'étais invité à ce colloque, dont je pensais que c'était une mauvaise idée de le tenir, mais bon, j'étais allé. Et j'ai donc essayé de traiter cette question. Mais évidemment, mon point de vue, moi, n'est pas de décrire d'une façon quasi sociologique, disons, et neutre, l'évolution des positions politiques de Ponge, dont tout le monde peut se rendre compte. Il suffit de lire les textes, et en particulier de lire ce qui s'écrit sous la plume de Ponge dans les textes des années 1950-60, le Pour un Malherbe en particulier. Bon, ma question, c'est d'essayer de savoir et d'essayer de comprendre ce qui se passe dans le rapport entre l'évolution des positions politiques de Ponge et ce qui se passe dans son écriture, dans le détail stylistique formel de son écriture. Voilà.
Christian Prigent, on vous a demandé, comme tous nos invités, de nous apporter un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi.
À la mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, 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 alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andare.
Identification de ce son est la raison pour laquelle vous l'avez choisi, Christian Prigent.
Quand j'ai choisi ce son, c'est-à-dire avant-hier, j'ignorais que c'est cette chanson qui a été choisie pour accompagner le cercueil de l'un des dessinateurs de Charlie Hebdo, tué lors de l'attentat, lors de ses obsèques à Montreuil hier. Voilà, une coïncidence. Il se trouve que j'ai choisi ça, j'étais en Italie, donc il y avait déjà un rapport avec l'Italie. C'est une chanson populaire italienne qui a été reprise sous une autre forme, sous une autre cadence, avec d'autres paroles, par le Parti communiste italien au moment de la résistance. Ça, c'est la version originelle.
Chantée par Giovanna Daffini.
Voilà. C'est une femme qui travaille dans les rizières de la plaine du Pô. Et qui évoque dans les paroles de cette chanson la cruauté de ce travail, l'exploitation qu'elle subit. Voilà. Et je suis sensible à ce chant parce qu'il dit quelque chose de l'exploitation. Quoi. Il dit quelque chose de l'exploitation, il dit quelque chose du malheur d'être exploité, il dit quelque chose de la violence de l'exploitation, et il dit quelque chose aussi dans ses paroles ultimes de la persistance au cœur de l'exploitation, du rêve d'un monde où ce type-là d'exploitation, en tout cas, n'existera pas. Voilà. Il conserve quelque chose du mot révolution, disons.
Ce Versailles de sexe,
c'est l'expérience que chacun singulièrement nous faisons du réel de nos vies.
C'est la sidération du réel.
Ce serait arrogant de penser le contraire.
Et puis, on aboutit à l'émiettement des îles.
Merci à nos invités. Jean-Noël Oringo, La fleur du capital, apparu aux éditions Grasset, Christian Prigent. La langue et ses monstres, c'est aux éditions POL. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Les trois jours durant lesquels la furie terroriste s'est déchaînée dans Paris et sa région, 17 personnes ont été tuées par trois islamistes entre mercredi et vendredi.
Demain, il faudra attendre lundi. Et pour le rendez-vous, ce sera quand les médias s'en mêlent avec le journaliste Harry Roselmack et le documentariste Juan Massenia. Lundi, journée spéciale sur France Culture. Les enfants perdus de la République après le choc Charlie, que faire? Et je signale la diffusion d'une série exceptionnelle de la Fabrique de l'Histoire de lundi à vendredi. Comment en sommes-nous arrivés là? 1905-2015, histoire d'une république fragile. Mais des annonces, Hippolyte.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Lucille Como, Manu Farine, Aïssatou Endoy et Hippolyte Babilote, journal de la culture et le supplément week-end Zoé Sfès et Benoît Lagan, à la prise de son Jean-Guilain Mèche et Alex Dang, et à la réalisation Thomas Beau.
Avec beaucoup de retard, on va se quitter. Vous êtes bien sur France Culture. Et tout de suite, à 19h55, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française.